Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ah, le sexe, que l'on en parle ou que l'on n'en parle pas, il faut bien l'avouer, qui n'est pas travaillé par la question? La sexualité, au dire de mon invité de ce matin, c'est le désir. Un moine qui, en matière de désir, s'y connaît bien, lui qui soupire rien moins qu'après Dieu lui-même. Le sexe, le désir, tout le monde en parle, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. Mais il faut bien l'avouer, rares sont ceux qui nous aident à ne pas soit mettre un couvercle sur nos désirs, ou au contraire, à leur lâcher la bride. Voyons donc si notre invité saura lui concilier les contraires dont nous rêvons peut-être tous. Parole d'un moine sur le désir, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec comme invité David Marc Damonville. Vous êtes religieux bénédictin, prêtre et vous êtes l'ancien père abbé de l'abbaye d'Ancalca dans le Tarn près de chez nous. Vous êtes par téléphone car en ce moment vous êtes à l'autre bout de la France. Hélas, on devait être en duplex depuis les studios de RCF à Brest et puis il y a quelques problèmes techniques. Bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre présent. Alors, on va parler de votre livre, un livre original intitulé « Désir », avec ce sous-titre « Quelques mots d'un moine sur un sujet sensible » paru aux éditions Salvator. C'est original et vous l'assumez. Vous avez une grande liberté de ton dedans. Peut-être ma première question, ça sera, est-ce là un sujet dont le fond... impossible. Je le disais avec un sourire dans l'introduction, on rêve tous quelque part de concilier les contraires, c'est-à-dire de pouvoir avoir de grands désirs, y compris dans l'ordre de la sexualité, et en même temps de vivre ça en paix. Est-ce là mission impossible dans le fond ?
Alors concilier les contraires, ça me paraît tout à fait dans le fil du sujet. En fait, c'est peut-être ça qui fait qu'on n'en parle pas ou qu'on met un couvercle dessus ou qu'on en parle mal. Bon, j'ai pas la prétention d'en parler bien, mais je crois que il faut en parler. Et il faut d'autant plus en parler que la période où nous sommes, elle est en train de remettre un voile de noirceur sur pratiquement la sexualité. Alors, on le dit pas directement, mais quand on parle de l'Église et de la sexualité, patatras, c'est toujours pour parler d'énormes problèmes et que je ne nie pas. Mais je trouve qu'on a besoin en même temps de ressentir toute la force d'appel que représente la sexualité dans la vie d'un homme. Si on met le sexe de côté, c'est la vie qui s'écroule. Enfin, c'est quelque part le désir de vivre qui est en péril.
Alors commençons par vous. Vous, dans votre deuxième chapitre, je crois, s'appelle Les pieds dans le plat. Pourquoi vous, en fait, pourquoi écrire un livre sur ce sujet? Vous rapportez un dialogue, alors on imagine que c'est peut-être avec votre éditeur, ou alors c'est un dialogue fictif, ou en tout cas votre interlocuteur se demande ce que vous allez apporter de nouveau sur le sujet, parce que des rayonnages, il y en a sur ce sujet. Pourquoi avez-vous voulu prendre la parole?
Alors, le dialogue, il est pas fictif, mais je crois qu'il est intérieur. En fait, il y a en moi-même une voix qui est une voix aussi qui fait la morale, qui rappelle les bons conseils, et les bons conseils, c'est souvent de se taire. Hein. Donc, c'est un livre que j'ai écrit pas sans scrupule, pas sans hésitation et avec beaucoup de prudence, mais un livre qui en même temps est le livre d'un homme de 66 ans, et donc voilà, il est temps de parler parce que la sexualité, elle m'habite depuis 50 ans, 55 ans ou quelque chose comme ça, et j'en perçois l'enjeu au présent, pas seulement au passé, mais au présent.
Et alors pourquoi, pardon, je vous repose la question, j'insiste un tout petit peu, mais vous pensiez que vous aviez quelque chose quoi, de nouveau, d'original, ou c'est le fait que vous soyez moine qui allait surprendre?
Quelque chose de, peut-être, oui, quelque chose de singulier, pas quelque chose de nouveau ou d'original absolument, mais oui, une singularité qui est le fait de mon histoire personnelle et de ma personnalité dans tout ce qu'elle a. Chacun, nous avons une histoire singulière, mais étant moine, je suis censé justement être encore plus silencieux que les autres. Et finalement, les moines prennent la parole au moment où on s'y attend pas. C'est leur rôle, c'est notre rôle d'être un peu à contre-courant, de pas se laisser broyer par la, entre guillemets, la normalité ou les choses bien pensées, bien pensantes.
On va y venir de votre regard, on va dire, de religieux, regard monastique. J'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu d'une escapade à Paris. C'est un chapitre qui s'appelle Montorgueil. Vous êtes pas loin de Saint-Eustache, à l'angle de Montorgueil-Tiquetonne. Vous êtes en terrasse, vous sirotez une bière, c'est en été. Pourquoi est-ce que vous pouvez un petit peu partager avec les auditeurs ce chapitre? En fait, vous êtes en terrasse et puis à vous entendre, vous avez l'impression qu'en écoutant des bribes de conversation, presque malgré vous, vous vous rendez compte une fois de plus que la sexualité est partout, c'est ça?
Oui, je pense que bon, c'est un souvenir tout à fait clair et précis. Je revenais du Carmel de Compiègne où j'étais allé donc à Jonquière, où j'étais allé porter pendant une semaine la parole à nos sœurs carmélites, et on avait parlé de la Bible et on avait parlé de beaucoup de choses, de Jonas notamment. Et puis je leur avais confié ce livre que j'étais en train d'écrire. J'étais dans la rédaction, j'étais en train de travailler sur les idoles, on en parlera peut-être à un autre moment, les idoles telles que la Bible les évoque. Et donc je rentre en Calcutta tout simplement, il faisait très beau, très chaud, et j'avais convenu de rencontrer un frère, un ancien frère, pour partager le repas de midi, et c'était une occasion entre deux trains, entre la gare du Nord, je pense, et puis ma gare de Montparnasse, de faire une pause. Et puis le frère en question n'était pas là.
Qu'est-ce que vous avez vu et entendu en terrasse qui fait que vous avez voulu le partager dans ce chapitre?
Oui, en terrasse, il y avait le quartier qui était intéressant, ce quartier près de Saint-Eustache, près des Halles, très touristique, hein, ces quartiers piétons. Et donc, étant en terrasse, je voyais déjà les gens passer. La première chose qui m'interrogeait, c'était les couples, finalement. Je voyais des couples, quelques petites familles assez rares, et puis des couples hommes-femmes tout à fait réguliers. Puis de temps en temps, tiens, deux messieurs, deux hommes ou deux femmes. Et puis alors, bon, ben je m'étonne de voir qu'effectivement, je me disais, tiens, bon, tiens, deux garçons. Et puis, ah ben non, les femmes suivent à quelques pas derrière. Donc il y avait cette espèce de normalité du couple homme-femme qui était là et qui me travaillait, qui
alors vous m'interrogeait. Vous rapportez aussi donc la conversation entre deux hommes dont un se demande si un proche est gay ou pas. Bref, à vous lire.
Au restaurant qui a suivi, la pizzeria où je me suis attablé, j'ai entendu ce petit bout de phrase et c'était rigolo parce qu'il y avait deux femmes d'un côté qui parlaient d'histoires intimes et on ne saisissait pas, mais il s'agissait sûrement d'une trahison. Et puis ensuite, ces deux gars qui parlaient d'un autre qui était gay et visiblement, ça les mettait très mal à l'aise.
Alors, frère David, David-Marc, pardon, vous, les moines, en fait, moines et désirs, vous en parlez, parfois de même de manière assez, on va dire, crue, ou en tout cas avec un humour un peu décapant, vous y reviendrez peut-être. Qu'est-ce que les moines, ont à dire? Enfin, sont-ils exempts de sexualité, de désir?
Ben là, il y a sûrement un amalgame. Historiquement, voilà, en parlant de continence, en parlant du vœu de chasteté, on imagine que toute la sexualité, en quelque sorte, est passée à la trappe, qu'il n'y a plus rien qui existe, c'est une espèce de virginité retrouvée. Et ça, c'est complètement imaginaire. Je crois que après 35 ans de vie monastique, je vais pas. Enfin, il y a sûrement des frères qui vivent dans une absolue distance avec toutes les réalités de la sexualité, mais ils ouvrent des journaux comme moi, ils regardent, ils ouvrent et éventuellement de temps en temps, ils tournent le bouton d'une télévision et ils voient des images, et ces images sont chargées de sexualité, d'érotisme. Les publicités ne sont pas exemptes d'érotisme, même quand on se promène en ville. Donc, prétendre rester indemne de tout cela, je crois que c'est faux. C'est à côté de la plaque. C'est autre chose de parler du désir, parce que le désir, c'est ce qui nous oriente. C'est-à-dire que ce n'est pas l'objet de nos recherches. On peut être en terrasse un jour et profiter de la vie et regarder les belles femmes qui passent ou les beaux messieurs, mais de toute façon, on n'est pas indemne de cela. On est simplement, par le désir le plus profond, attaché à autre chose, comme un homme marié qui aime sa femme et qui choisit de lui être fidèle. Ça n'empêche pas non plus de regarder un film où il y a une actrice extraordinaire et de se dire « mon Dieu, elle est renversante ».
Alors, voilà. tout serait évidemment, comment dire, merveilleux si on arrivait comme ça à tous vivre justement avec équilibre cette grande tension intérieure, ce grand désir. Vous prenez le temps, entre autres, dans votre ouvrage, donc de nous rappeler l'étymologie du mot désirer. Desiderare, c'est redescendre des étoiles. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre, frère David ?
Alors, les sidera, oui, sidera, c'est les étoiles. Desiderare, redescendre des étoiles. C'est-à-dire, de la même façon que les étoiles, elles s'effacent pendant le jour, eh bien, l'observation des étoiles, c'est d'abord le sentiment d'une extrême distance. Le désir, c'est ce qui vous met à distance, c'est ce qui vous tient à distance d'un objet. Et donc, le désir, c'est un retour sur Terre. C'est un retour sur Terre, oui. C'est accepter de ne pas être simplement la proie de ces fantasmes, de ces illusions. Le vrai désir, c'est celui-là. C'est celui qui redescend sur Terre.
Allez, on va faire
qui aime le réel.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour continuer à parler de votre livre et puis faire un parcours un peu biblique puisque vous nous parlez des idoles du désir en reprenant quelques images ou lieux tirés des Écritures, l'Égypte, Assur et Canaan, on va y revenir. À propos de redescendre des étoiles, vous dites la chose suivante, désirer c'est arrêter d'être sidéré, arrêter de demander la lune, prendre de la distance, à cette condition-là, le désir fait vivre, décoller l'œil du télescope.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Parole d'un moine sur le désir, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité David-Marc Damonville, qui est religieux bénédictin, prêtre et ancien père abbé de l'abbaye d'Ancalca, dans le Tarn, près de chez nous, auteur d'un livre, auteur de nombreux ouvrages. On vous a reçu déjà plusieurs fois en émission. Votre livre dont on parle, en tout cas, c'est « Désir, quelques mots d'un moine sur un sujet sensible » paru aux éditions Salvatore. Avant qu'on parle, frère David, des trois idoles de la sexualité que vous répertoriez, et puis vous nous faites un parcours biblique pour nous aider à comprendre ces idoles. J'aurais comme envie de vous poser une question, peut-être un peu à rebrousse-poil de la question qu'on aurait envie de poser aujourd'hui. Quand on n'a plus de désir, est-ce qu'on peut faire un bon moine ?
Sûrement pas. Sûrement pas. Oui. Jusqu'au bout, le moine, c'est vraiment celui qui cherche Dieu. Saint Benoît dit que c'est la première chose, la chose la plus importante quand on regarde le novice, c'est le désir, c'est cette recherche de Dieu. Qui dit Dieu dit une recherche inassouvie, une recherche infinie. La puissance du désir du moine, je crois que c'est le numéro un de sa capacité à ensuite surmonter des épreuves, des patiences, des attentes, des revers, des échecs, et tout ce qui fait la vie.
Et y compris Frère David, avec sa sexualité, contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire.
Ben, il vaut mieux qu'il arrive avec, parce que s'il vient sans, il va avoir de cruelles découvertes, enfin de cruelles, j'en sais rien, pas forcément, mais... C'est un homme vrai qu'on doit recevoir au monastère, pas un homme amputé, pas un homme qui s'ignore. Alors il peut se découvrir en partie, et il se découvrira de fait beaucoup pendant ce parcours de formation et tout au long de sa vie de moine. Mais la sexualité, je pense aujourd'hui aussi, c'est une situation culturelle à mon avis, aujourd'hui elle est vécue de façon tellement chaotique et dangereuse dans la société qui est la nôtre, que celui qui n'aurait fait aucune espèce de découverte de ce monde avant, j'ai peur qu'il ait des surprises difficiles, peut-être, oui.
Alors, les idoles, vous dites qu'il y en a trois, en tout cas, vous avez choisi d'en nommer trois. L'idole de la parfaite maîtrise, et vous prenez comme image celle de l'Égypte, vous allez nous en parler. L'idole de la mobilité volage, avec Assur, et l'idole du sexe exaspéré, avec Canaan. Si on commence par le début, cette première idole, vous dites, c'est l'idole du pouvoir. Alors, pouvoir et sexualité, quel est le lien, et pourquoi cette image de l'Égypte ?
En fait, je suis parti d'une analyse qui m'a précédé de longtemps, celle d'un ingénieur, que je ne connais pas autrement que par son écrit, dans un collectif qui était un collectif juif, le magazine de recherche qui s'appelle Idole, c'est ainsi que se nomme le livre, et lui, il a regardé avec passion l'idolâtrie biblique, l'idole dans la Bible, c'est un thème majeur dans l'Ancien Testament, et pour le monde juif et pour le monde chrétien. Mais dans le monde chrétien, c'est un peu gommé. Dans le monde juif, c'est beaucoup plus sensible et vivant, ce monde des idoles, les faux dieux. Et les faux dieux, il en voit trois qui sont les trois pays où Israël n'a pas réussi à vivre en paix, et ce sont l'Égypte, la Syrie, Babylone et Canaan. Alors, l'Égypte, c'est la maîtrise, c'est-à-dire que c'est un monde effectivement de la plus haute civilisation qui soit, la plus longue, c'est la plus durable, mais c'est aussi celle des pouvoirs, du pouvoir le plus intransigeant, le pouvoir de Pharaon, le pouvoir absolu, et de l'esclavage le plus intense, le plus intensif qui soit, celui qui a permis de construire les pyramides.
Alors vous dites, l'Égypte biblique nous raconte l'histoire de cette première idole qui est la puissance, le pouvoir. Ce régime inébranlable était fondé donc sur trois empires, la raison, la technique et l'administration. Quel lien vous faites du coup avec une idole que l'on peut avoir dans l'ordre de la sexualité ou du désir ?
C'est celle de la maîtrise. C'est-à-dire que la première chose que fait voler en éclat la sexualité en soi, c'est la maîtrise. Être sexué, c'est s'apercevoir qu'on n'a pas tout à fait la maîtrise, que ça s'échappe. Si ça ne s'échappe pas dans la vie concrète, ça va s'échapper dans le rêve. Mais à un moment ou à un autre, il y a une déconnexion qui se fait, un décapsulage, et quelque chose qui fait qu'on n'est pas maître tout à fait de son désir. On se laisse séduire, on se laisse attirer, on se laisse prendre au jeu. Ça fait partie du jeu sexuel. Et je crois que ça fait partie du plan de Dieu. La sexualité, c'est ce qui nous empêche d'être tout à fait maître et autonome et tout puissant, d'être Dieu.
Alors, quelle est la première leçon de sagesse que vous pouvez tirer avec nous, enfin pour nous, de cette rapide, très, très rapide lecture biblique? Évidemment, vous allez plus.
C'est sûrement ce que dit le père Thévenot, Xavier Thévenot, c'est la petite phrase que j'ai mise en introduction sur mon chapitre de l'Égypte. Je vais peut-être la relire, j'ai le livre devant les yeux. Reconnaître que l'on est sexué, c'est recevoir de la façon la plus nette un démenti à notre vœu de toute puissance. Voilà. Ça, c'est Xavier Thévenot qui le dit. Je crois que c'est la première leçon, mais c'est peut-être la plus durable. C'est-à-dire que même le moine qui, d'une certaine façon, s'est éloigné des tentations, de tout ce qui pouvait représenter le monde de la sexualité en mouvement autour de lui, même lui, dans sa solitude, à travers le piège peut-être de la masturbation, par exemple, il est là devant quelque chose qui lui échappe. Et il faut qu'il le sache au départ. C'est la grande affaire monastique, d'ailleurs, de l'ascèse, c'est-à-dire un exercice. On ne prétend pas, dans un exercice, avoir gagné la course définitive. On prétend simplement, tous les jours, faire un petit bout du chemin. Il en va de même avec la sexualité. On ne prétend pas régler la sexualité une fois pour toutes. C'est tous les jours qu'on va apprendre à gagner une petite victoire ou à surmonter un petit échec.
Alors, deuxième idole, on y reviendra peut-être, hein, mais on déploie un petit peu le cœur de votre ouvrage et puis après on mettra tout ça peut-être encore plus en musique. C'est donc un autre lieu, c'est la Mésopotamie, donc autre passage donc, dans les Écritures. Vous arrêtez donc sur Assur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà à quoi vous faites référence pour ceux qui sont moins familiers de l'Écriture que vous?
Alors, la géographie, en fait, c'est un peu une leçon de géographie comme une découverte des pays bibliques. Et la différence entre l'Égypte et Assur, c'est qu'en Égypte, il y a le Nil qui coule de façon très régulière, en tout cas avec des lacs qui permettent de prévoir les crues. Alors on maîtrise l'irrigation, et par là on maîtrise toute la vie. Mais l'eau en Assyrie, c'est-à-dire en Mésopotamie, l'actuel Irak, c'est le pays du déluge. C'est-à-dire que l'eau arrive par la fonte des glaciers, qui sont au mont Arara, dans les monts du Taurus, et tout à fait au nord, en Turquie. Et c'est la fonte des neiges qui est catastrophique. Et c'est pas du tout un pays où on irrigue paisiblement. C'est un pays de démolition constante de villes inondées, avec des capitales qui se sont déplacées tout au long des deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui forme la grande plaine de Mésopotamie. Actuellement, c'est Mossoul, et puis plus bas, vers Babylone. Voilà, Babylone, c'est encore la Mésopotamie. Alors, dans ces pays-là, l'eau, justement, fait que tout s'écroule, que rien ne tient. Et donc, ce sont des pays d'argent. On ne peut pas bâtir des maisons parce qu'elles vont être inondées et s'écrouler. Alors on a des troupeaux et on les fait gambader, ou alors on a de l'or. Et l'or est davantage susceptible de partir en voyage et d'aller où on veut. C'est un peu, du point de vue de la sexualité, la métaphore du sexe en voyage, quoi, du caractère volage de la sexualité qui ne s'attache jamais, qui ne prend pas de port et qui décide qu'on va simplement surfer sur la vague, flirter éternellement et trouver toujours une nouvelle proie ou nouveau lieu de plaisir pour sa sexualité.
Alors
c'est une illusion aussi.
À ce moment-là, vous citez un passage de l'Écriture, compter, peser, partager. Est-ce que vous pouvez rapporter ce passage?
Raconter l'histoire.
C'est le livre,
c'est le livre de
Daniel.
Le livre de Daniel. Daniel, c'est ça, le livre de la prophétie de Daniel. C'est le festin de Balthazar. Balthazar est donc l'héritier de cet empire de Babylone, et sur le mur, pendant qu'il est en train de faire un festin sacrilège où on boit et on mange dans les plats d'or et les coupes d'or qui viennent du temple de Jérusalem, brusquement, on voit apparaître une main qui écrit sur le mur. Et il écrit trois mots, tekel, mene, mene, tekel, ou farsin. Alors ça se traduit compter, compter, peser, partager. Alors compte, poids, mesure, division. On voit bien qu'on est dans un empire qui est celui de la mesure et donc de l'argent et du poids.
Alors on peut dire que le royaume va
s'écrouler.
On peut dire que les convives ont été à ce moment-là terrorisés. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait en comprendre, en fait, de cette main invisible qui écrivait sur un mur?
Oui, alors, le roi ne comprend pas parce qu'il est babylonien, il ne comprend pas ce langage parce que c'est de l'hébreu. Et il appelle le jeune Daniel qui va lever l'énigme en traduisant ce qui est écrit sur le mur. Et il lui traduit « Ton royaume a été pesé et tu ne fais pas le poids, tout a été compté et recompté et tu vas être partagé, divisé, ton royaume sera réparti entre les Mèdes et les Perses. » C'est-à-dire que c'est la fin du royaume de Babylone. De fait, les Mèdes et les Perses vont envahir la Babylonie et se répartir le butin. Donc c'est l'écroulement de tout ce qui est empire d'argent, le caractère volage aussi de la finance, des tours de Babel, tours, alors j'évoque les grandes tours qu'on connaît, hein, les tours d'Enron ou des empires financiers américains.
Vous faites donc des parallèles avec notre civilisation, mais pour revenir à la question de la sexualité, vous dites entre autres la chose suivante, on voudrait sauter toujours, sauter plus haut, ne pas retomber, que de moyens pour s'en donner. L'illusion, et là c'est quoi cette deuxième idole? C'est quoi? C'est l'illusion d'un désir
L'illusion d'une possession, à nouveau, hein, une possession, mais une possession qu'on aurait en poche, comme le financier a dans sa poche son compte chèque et sa carte bancaire et s'imagine qu'il va toujours s'en sortir. Eh bien, la sexualité ne peut pas se mettre en poche et se distribuer à la façon dont on fait ses achats par carte bancaire. C'est-à-dire il y a un radical besoin d'attachement, déjà, qui est présent dans le désir lové au fond de la sexualité. Il y a quelque chose de plus profond et qui comprend l'attachement, qui ne peut pas être toujours à la bougeotte, en chemin et en perpétuelle reconquête. Ça, c'est pour ça que l'idole d'Assur ne tient pas, l'idole de la reconstruction permanente ou du transport toujours à reprendre, ça marche pas.
Est-ce que ça peut être aussi, tout simplement, avant qu'on passe au pays de Canaan, enfin pas tout simplement, est-ce que ça peut être aussi, quand on, enfin même si on n'a pas une sexualité, on va dire, proprement désordonnée, de vouloir mettre la main, en fait, sur le désir, mettre la main sur une forme de volupté?
Oui, là, je le dis à plusieurs reprises, c'est pas une chose qu'on maîtrise même intellectuellement parfaitement. C'est des images, hein, c'est une approche symbolique que j'essaye de faire et elle n'est que partielle. Mais les idoles sont toujours associées, les trois idoles sont toujours associées les unes aux autres et imbriquées les unes dans les autres. C'est-à-dire que pouvoir, avoir et jouissance, qui sont ce que la tradition chrétienne elle-même reconnaît comme les trois grandes tentations, la tentation du pouvoir, la tentation de l'avoir, de la possession, de l'argent, et la tentation de la jouissance pure, du plaisir sans autre maître. Ces trois idoles sont toujours liées, parce qu'il n'y a pas de jouissance s'il n'y a pas un certain pouvoir, il n'y a pas de jouissance s'il n'y a pas une certaine possession de l'autre. Donc, on regarde à chaque fois comme un cristal qu'on regarde par plusieurs facettes, hein, qui brille de plusieurs éclats et qui pourtant est unique. Et ces trois idoles, ce sont trois aspects de ce jeu d'illusion qui peut se révéler très, très dangereux dans l'exercice de la sexualité.
Alors justement, avant de venir au pays de Canaan, on imagine que... Alors vous êtes relativement discret là-dessus, sauf lorsque vous parlez d'un frère, donc d'un frère religieux, hein, d'un moine. Mais on imagine que si vous prenez la parole, c'est que vous considérez que l'enjeu est capital, et puis qu'il y a derrière bien des drames. Vous ne le faites pas pour faire la leçon avec la Bible en main. Qu'est-ce que ça cache comme drame? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, nous citer, au regard de votre expérience aussi,
voilà, bon, c'est l'expérience aussi
d'accompagnement. Hein, c'est...
Oui, de l'accompagnement, et j'allais vous dire du prêtre. Hein. Du prêtre qui, qui reçoit des confidences, à la fois dans les confessions et en dehors de la confession, le moine qui écoute des gens à l'accueil, et qui connaît aussi les trajectoires personnelles de beaucoup de frères, et ça c'est le père abbé aussi qui est un petit peu plus au courant, un peu plus en proximité de tous les frères. En fait, il y a beaucoup d'existences brisées, et il y a beaucoup d'existences qui, à travers la sexualité, se sont aussi fortifiées, construites, malgré la difficulté. Ça peut être une expérience très rude pendant l'enfance, toutes ces enfances abîmées, maltraitées, les incestes, les situations d'exploitation. Enfin, le drame, il est partout. Il est partout et en même temps, c'est l'humanité qui, à travers de telles souffrances, se fait jour. Une capacité de rebond, capacité de résilience, espérance, profonde charité. Tout ça, ça peut naître sur le terreau de la sexualité qui souvent est un lieu de douleur. Voilà, il y a des joies immenses et il y a des douleurs qui sont grandes, qui sont nombreuses.
Allez, on va faire une deuxième pause avant de parler du troisième pays et puis d'essayer de voir ce que vous dessinez au-delà de ces idoles. Vous parlez aussi du cloître, c'est au début de votre ouvrage. Vous rappelez que dans un monastère, il y a un cloître qui est un lieu, a priori, qui ne sert à rien. C'est comme un espace ouvert, seulement sur le ciel et à la verticale. Et vous dites que c'est probablement l'image de l'unité vers laquelle on tend, l'impossible unité peut-être du désir.
Radio Présence dans la vallée du Lot, 92.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Parole d'un moine sur le désir, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec comme invité David-Marc Damonville, religieux bénédictin, prêtre et auteur donc d'un ouvrage intitulé « Désir » avec ce sous-titre « Quelques mots d'un moine sur un sujet sensible » paru aux éditions Salvator. Et on aurait pu aussi préciser que vous êtes bibliste et donc vous nous faites faire entre autres un détour par les Écritures. Frère David, avant qu'on parle du pays de Canaan, c'est pas le premier réflexe qu'on a quand on est travaillé par le désir, et parfois des désirs avec lesquels on a du mal à se dépêtrer, de se plonger dans la Bible. Est-ce là une erreur ?
Sûrement que la Bible est un réservoir extraordinaire de sagesse et de science concernant la sexualité, parce que rien n'y est tabou, ou à peu près. Toutes les histoires sont racontées avec une crudité parfois très très étonnante. Alors, on n'en lit pas grand-chose dans la liturgie, hein. Il faut bien reconnaître qu'on est assez économe du côté des scènes crues de l'Ancien Testament, mais les thèmes de l'inceste, les thèmes de l'infidélité, de la polygamie, de quantité d'expériences de viol, de violence, d'abus, dans la Bible, c'est un repère, parce que la Bible est un livre qui justement ne met pas l'interdit au niveau de la connaissance. Au contraire, on signale les pièges de façon qu'on puisse y réfléchir, y penser, plutôt que de se voiler les yeux.
Alors venons-y à cette troisième idole. Cette fois, c'est donc c'est l'idole de la jouissance, et vous dites donc c'est l'idole de Canaan. Vous allez nous redire de quoi il s'agit. Vous dites que c'est la pire de toutes.
Canaan, oui, c'est d'ailleurs un peu du point de vue même le mot, hein, signifie un petit peu l'abomination, le caractère corrompu d'une situation ou d'une addiction, par exemple. Canaan. Oui. En fait, c'est dans la civilisation de Canaan, celle que les Israéliens, enfin les Hébreux qui arrivent en Israël, doivent exterminer. C'est une idolâtrie qui consiste à tout sacrifier aux Baals. Les Baals, ce sont les maîtres de la terre, les maîtres de la fécondité, de la fertilité. Et quand on sacrifie tout, eh bien on sacrifie jusqu'à ses propres enfants. Le sacrifice des enfants dans les espèces de statues de pierre, on a tous vu ça en illustration, des grands brasiers où on sacrifiait des enfants à tour de bras quand les situations étaient dramatiques. Ça, c'est la bonne nouvelle justement qu'apporte le monde hébraïque, c'est qu'on n'a pas le droit de sacrifier les enfants. Les enfants, c'est la vie, c'est ma propre vie. C'est la vie future, c'est la vie donnée, la vie est toujours donnée, jamais elle n'est possédée. Même celle qu'on a soi-même transmise, ça ne m'appartient pas. Alors aucun enfant n'appartient à ses parents.
Quel lien faire avec la sexualité? Quand est-ce qu'on en vient, d'une certaine manière, de manière symbolique, à sacrifier ses enfants?
Alors, je n'insiste pas énormément, mais je crois qu'on est dans une civilisation où on a totalement déconnecté la fécondité, le fait d'avoir des enfants, avec le fait de la sexualité, le plaisir de la relation sexuelle, la conjugalité, et puis au-delà, évidemment, toutes les situations de non installées, de rencontres amoureuses, plus ou moins organisées. Donc, sacrifier l'enfant, c'est déconnecter la sexualité de la vie possible. C'est évidemment le meurtre de l'enfant, quand il s'agit de situations les plus graves. Il peut s'agir de la situation de l'avortement, de la situation de la contraception. C'est pas une chose, je le dis pas une chose absolue, qui est un diktat qui tombe du ciel, mais la perspective de la vie associée à la sexualité. Voilà la bonne nouvelle. Et si la vie n'est plus là, alors c'est la sexualité est en péril.
Alors venons-y justement à la bonne nouvelle. Alors dans votre livre, vous êtes on va dire, plus sage que dans votre ouvrage. Il y a des passages vraiment, on va dire, piquants. Hein. J'en citais quelques-uns à l'antenne. Quand vous dites, je crois, dans un passage, en définitive, la seule question à te poser, c'est demande-toi qui mène dans ta compagnie. En l'occurrence, la compagnie, c'est la compagnie de son sexe. J'aurais envie de vous dire, après nous avoir aidé à débusquer ces trois idoles, on imagine que vous n'avez pas écrit ce livre pour d'abord nous faire la morale, c'est ce que vous avez dit en introduction, ni pour nous proposer, je le dis sans vouloir blesser personne, ni pour nous proposer, on va dire, une petite morale sexuelle bourgeoise et tranquille. Quelle est dans ces cas-là cette possibilité de concilier les contraires, comme on le disait en introduction, c'est-à-dire vivre de grands désirs, y compris dans l'ordre de la sexualité, et en même temps ne pas être prisonnier d'idoles?
Il me semble que le nœud de l'affaire, c'est la parole. c'est-à-dire la possibilité déjà d'en parler. Ça, c'est une des richesses très fortes de notre époque. J'ai 66 ans, donc quand j'ai grandi quand même dans une civilisation où le christianisme était extraordinairement silencieux sur cette affaire, pour ne pas dire mutique. On ne pouvait pas parler de sexualité, on ne devait pas en parler. C'était ni entre nous, ni au-delà, ni même avec les parents, la discussion était rare. Si on évoquait une situation de telle ou telle personne qui avait divorcé, qui était peut-être en relation d'adultère, etc., c'était toujours au café, quoi. Enfin, c'est quelque chose qu'il fallait mettre sous cloche. Au contraire, en 2020, il me semble que entre générations et à l'intérieur d'une même génération, la sexualité existe, même pour les chrétiens. Il n'est plus tout à fait aussi dangereux et aussi grave d'en parler. Et cette parole est une bonne nouvelle, parce qu'elle permet pour l'enfant qui grandit, pour l'adolescent qui se forme, de ne pas être isolé avec sa sexualité comme avec un mauvais rêve, un cauchemar ou une chose ingérable.
Mais Frère David,
il peut en parler.
Frère David, vous avez une phrase dans votre livre à propos de la parole, « La vraie parole n'a jamais fini ». C'est quoi une vraie parole sur la sexualité ? Parce que là aussi, pardon de tout le temps renvoyer à mon introduction, mais on a l'impression qu'on oscille un petit peu, et vous le dites aussi dans votre ouvrage, on va dire entre un excès et un autre, et que le juste milieu, la juste parole n'est pas forcément simple sur ce sujet.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout prétention avec mon petit livre de résoudre quoi que ce soit. On ne résout pas la question sexuelle, mais en parler, et comme vous dites, ça n'a pas de fin, enfin comme je le dis aussi avec force, hein, et c'est Paul Beauchamp qui dit ça, parler, c'est renoncer au tout, c'est-à-dire c'est être dans le partiel et dans le pas définitif. Parler, c'est dire on se rappelle, c'est-à-dire on continuera bientôt. La parole est toujours une espèce de promesse de continuer à parler encore, sinon c'est qu'il y a eu quelque chose de très grave. Qui fait qu'on a coupé, la relation, l'amitié ou l'amour et qu'on ne veut plus parler. Donc parler, c'est toujours en chemin. Mais ça ne veut pas dire que c'est vain. C'est pas parce qu'on est toujours en chemin qu'il faudrait pas prendre le chemin, non. C'est une leçon d'humilité, on va marcher avec. Eh bien, on va parler la sexualité. On va pas la laisser s'étioler ou se désoler ou se pourrir sans parole. Parce que la parole va l'aider à trouver ses repères. Je crois qu'à un moment aussi, j'essaye de dire quand ton désir, ton cœur et ta parole vont bien ensemble, alors tu ne cours aucun danger. C'est quand il n'y a plus de parole, en général, que la sexualité est en train de s'égarer gravement.
Vous voulez dire que la parole, ça peut être aussi le lieu du désir ?
C'est le lieu de vérification du désir. Le lieu de purification, de vérification. L'homme qui trompe sa femme, ça va se traduire par une non-parole permanente. Même si c'est un couple solide et tout ça, il y a du mensonge qui va s'y glisser. C'est la parole qui va être abîmée. Bon, c'est une situation très, très simple, mais le jeune garçon aussi ou la jeune fille qui se découvre homosexuelle, c'est la non-parole qui va être là. C'est le silence, le mutisme, et la peur. Donc toutes ces situations-là, la parole va aider à une certaine transparence, à la relation, à la vérité. Qu'est-ce que tu vis ? Qu'est-ce que tu désires ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce qui va te rendre heureux ?
Frère David, pour finir, vous avez un autre passage où vous dites « Pour accéder à l'amour, peut-on court-circuiter les mauvaises fréquentations, le temps des erreurs, la solitude, la cuisante leçon des idoles ? Peut-on entrer en terre promise sans traverser le désert ? Peut-on trouver la source sans remonter la rivière à contre-courant, sans prendre le risque de tomber à l'eau, de se tremper sûrement, de se noyer peut-être ? Il n'y a pas de mal à, on va dire, à chercher et à tomber, comme on dit dans le jargon.
Vous me trouvez un petit peu permissif là quand j'ai dit tout ça.
Ah non,
je veux dire que l'échec fait partie de la formation. La Bible nous le dit dès la première page, c'est-à-dire on commence par un raté, mais c'est pas grave, ça fait partie de la relation. Les leçons de la désobéissance sont permanentes dans la Bible. Jonas, comme Adam, commence par partir dans le mauvais sens, aller dans la direction opposée. Bon, il faut se prendre quelques gadins pour arriver à bien faire du vélo, ou il faut se boire la tasse pour arriver à nager. Pour être parfaitement un homme, on peut aussi parfois se tromper. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit se tromper, heureusement.
En même temps, vous avez cette phrase « cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire ». Vous la citez, mais enfin, elle n'est pas forcément de vous. Hein. C'est presque devenu comme un
proverbe. C'est le proverbe.
Voilà, c'est un proverbe. Donc, on doit quand même jusqu'au bout apprendre à vivre avec quelque chose qui nous brûle et qui est là pour nous brûler.
Tout à fait. Ouais. Dieu, c'est ça. Dieu. Enfin, pour moi, le Seigneur, il est là à nous réveiller sans cesse du côté de la brûlure, du côté de ce qui fait mal, du côté de. Je dis aussi que le sexe, c'est une blessure ouverte dans la vie d'un homme ou d'une femme. Il se présente comme une blessure ouverte, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas résorbé, qui n'est pas cautérisé. Il faut vivre avec. Il faut vivre avec ce petit titillement qui est capable de se rallumer à n'importe quel moment dans la vie la plus courante, la plus ordinaire. Alors peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, mais là je suis mal placé, la télévision, les médias font qu'il y a peut-être un blindage qui se fait, j'en sais rien. Pour un moine en tout cas qui sort dans le monde ou qui tourne le bouton de sa radio, de sa télé, même de sa radio parfois, ça bondit comme un diable hors de la boîte. C'est-à-dire on se dit, mon Dieu, que c'est cru, mon Dieu, ah ben celui-là il n'est pas gonflé. Et, enfin voilà, on est toujours un peu sidéré de la charge sexuelle qui s'exprime aujourd'hui librement sur les ondes, sur... à la télévision, les images, la crudité des images. Donc ce serait étonnant que tout le monde soit absolument blindé, ce serait dangereux, ce serait grave. Ça voudrait dire qu'on a dépassé les bornes. Parce qu'il est bon que le désir reste en éveil. Il ne s'agit pas de lui taper sur la figure, enfin je ne sais pas comment dire, de lui faire un choc, de le dépasser dans ses besoins. Sinon c'est plus le désir, c'est une matraque, c'est un coup de matraque, c'est...
Eh ben merci.
C'est le contraire.
Merci frère David, merci et merci aux auditeurs. Désolé de pas avoir pu mettre en place ce duplex depuis les studios de RCF et merci à eux. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, « Désir, quelques mots d'un moine sur un sujet sensible » paru aux éditions Salvatore. Un grand merci à vous.
Merci, au revoir.
À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.